Cette histoire d'enfance, il ressemble a priori davantage à un roman d'apprentissage qu'à de la littérature engagée, semblait d'une époque littéraire révolue. La relecture que je vais en proposer montrera au contraire comment Mort à crédit permet de revenir sur les discours sociopolitiques de l'époque depuis des représentations de la maladie causée par le développement des sciences et des techniques. Une critique du progrès parcourt le récit. Je vais évaluer les modalités de cette critique à partir du corps de deux personnages, Clémence et Auguste, les parents du narrateur, Ferdinand. Celui-ci se retrouve décalé par rapport au temps officiel du progrès alors qu'il tente d'être en phase avec celui-ci. Des inventions ou le développement de nouvelles techniques rendent leur place dans la société de plus en plus obsolète, voire anachronique. Ce décalage temporel qui résulte de l'opposition entre l'individu et l'espace social se lira sur leur corps par des maladies chroniques. Après un court résumé, je vais rappeler certains aspects du discours social traitant du corps et du temps pour finalement analyser les figures temporelles, que représentent les parents de Ferdinand. Yves Pagès, dans Céline, Fiction du politique, dit au sujet des représentations de la technique chez Céline, je cite, « Le progrès chez Céline s'inscrit dans un jeu syncopé d'affirmations et d'interrogations, dans l'ordre polémique d'un dialogue. Rendre compte du traitement du progrès chez Céline soumet le lecteur critique à un flux de paroles, entier de nostalgie, prophétie de la décadence, éloge de l'invention. Le progrès fait d'abord parler. » Donc on voit aussi le caractère temporel dans la citation. Questionner les représentations de la maladie du progrès, c'est surtout questionner le réel. Céline cherche à ouvrir le corps, ouvrir le temps, ouvrir la langue qui articule les discours. Donc, le roman débute vers 1935 environ. Il suit Ferdinand dans son cabinet de consultation. Celui-ci est en médecin. Il décrit un monde en pleine décadence où tout le monde est malade, y compris lui-même, un peu comme dans un roman de Zola. Il va dire à la page 17, « Mon tourment à moi, c'est le sommeil. » Vers la fin de cette première partie, durant environ une cinquantaine de pages, Ferdinand est attaqué par un accès de fièvre. En divaguant sur le bord de la cuvette, il se remémore son enfance dans un délire enfiévré. C'est ce souvenir de son enfance, entre 1894 et 1912 environ, qui constitue la chair de Mort à crédit. L'esprit décadentiste et l'état pathologique qui vit dans le présent de 1935 deviendront des motifs récurrents de cette réécriture de l'enfance. Le présent de la maladie influence les souvenirs de l'enfance. Les développements du progrès des sciences et des techniques seront contaminés par cet esprit. Le narrateur fait office de passeur entre une autorité scientifique et l'état pathologique, étant à la fois un médecin et un malade chronique. Cette posture lui permet justement de dévoiler au lecteur une réécriture de la Belle Époque centrée sur des individus marginalisés par le progrès et surtout malades chroniques. Il convient de donner une définition du corps avant de poursuivre. Pour paraphraser David Le Breton, le corps est une fiction, c'est un construit social dont les représentations renvoient à des discours socialement organisés. C'est une construction du langage, c'est une figure. C'est aussi une frontière entre l'individu et le monde, un point de contact entre le soi et l'autre. Dans Mort à crédit, une lutte s'instaure sur cette surface qui sépare les individus et les avancées des techniques et de la science. Les personnages deviendront de plus en plus décalés temporellement, mais comme le corps est la seule chose qui les relie encore au monde, c'est sur celui-ci que se lie le conflit temporel. Dans Malaise dans l'idée de progrès, Marc-Ange Daud montre comment déjà en 1889, l'idée de progrès a perdu beaucoup de sa connotation positive. Il se retrouve de plus en plus questionné, voire contesté, autant de l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. C'est donc dans l'air du temps, surtout dans les milieux plus précaires, marginalisés, de croire que le progrès, finalement, c'est la source d'une décadence à la fois morale, mais aussi physique. Oui, le progrès a permis de mieux concevoir les rapports entre l'urbanisme et l'hygiène publique, par exemple. On peut lire la création des parcs pendant l'haussmannisation de Paris, ce que Walter Benjamin rapporte dans Paris, capitale du 19e siècle. Mais les développements rapides de la société française amènent de nombreux et nouveaux problèmes pathologiques, tels que la tuberculose, souvent représentée par les romantiques, le choléra, il y a plusieurs épidémies à Paris pendant le 19e siècle, ou encore même, apparemment, le paludisme, oui. Donc, les grands chantiers lancés par le baron Haussmann laissent des grands trous avec de l'eau stagnante, puis les moustiques trimballés par les travailleurs lointains ont répandu la malaria à Paris. Mais bon. Ça reste à prouver officiellement. Ça serait une légende. Je cite justement à cet égard-là la grand-mère de Ferdinand, donc qui dirait vers 1900. Grand-mère, elle s'est bien méfiée de l'exposition qu'on annonçait. L'autre, celle de 82, elle avait servi qu'à contrarier le petit commerce. Sans compter deux épidémies que les Iroquois, des sauvages, des bleus, des jaunes, des marrons, avaient apporté de chez eux. La nouvelle exposition, ça serait sûrement encore bien pire, on aurait sûr du choléra. Fin de la citation. On voit aussi dans ce passage combien les préoccupations du corps sont fréquentes, y compris du corps de l'autre, avec un grand A. Justement, à cette époque, le corps devient l'objet central de nombreux savoirs à prétention scientifique qui sont d'ailleurs surtout idéologiques. Les discours sur l'être humain se formalisent et leur scientificité est alors incontestée. Comme le rappelle Foucault dans Naissance de la clinique, je cite, « La médecine du 19e siècle s'ordonne plus à la normalité qu'à la santé. C'est par rapport à un type de fonctionnement ou une structure organique qu'elle forme ses concepts et prescrit ses interventions. » Fin de la citation. En d'autres mots, on cherche à établir ce qu'est un corps normal avant de définir ce qu'est la santé ou même de le guérir. Et c'est pas pour rien justement que chez Victor Hugo, Gwynplaine de L'Homme qui rit ou Quasimodo de Notre-Dame de Paris sont surtout caractérisés par leur difformité, ce qui dévie la norme corporelle et marginale. On tente de classer en fonction des divers facteurs sociaux qui sont considérés avec un regard médical. Les races, les classes sociales, les sexes, les origines ethniques, les religions, l'eugénisme. L'étude de la dégénérescence, la thératologie qui étudie les monstruosités, naissent toutes à cette époque. On redécouvre des vieux discours que l'on élève au rang de science, comme la physiognomonie avec Cesare et Lombroso, qui tentaient de relier la criminalité selon des déterminismes physiologiques. Donc, en mesurant la forme du crâne, la grosseur du nez, on pouvait déterminer si un individu était prompt à commettre des crimes. Bref, l'idée de progrès est, entre autres, il ne faut pas l'oublier, le progrès d'un discours scientifique sur les normes du corps. Il y a un caractère déshumanisant notable dans la formulation et la propagation de ces discours qui se sont élevés au rang de vérité incontestée pendant le 19e siècle. Du côté de la temporalité, c'est aussi à cette époque que les tentatives d'uniformisation du temps et de sa réification atteignent son apogée. Le temps devient tangible, concret, manipulable. C'est plus un objet abstrait, ça devient vraiment quelque chose qu'on peut voir. Il devient une unité de mesure scientifique officielle, mais surtout permet de mesurer l'évolution de l'organisation sociale. L'écoulement du temps prouve que la société évolue. C'est ce qu'on a vu un peu avec la conférence de ce matin. C'est la marche de l'histoire. Je souligne d'ailleurs que la seconde, l'unité de mesure, est définie de manière officielle scientifiquement lors de la Conférence générale des poids et mesures de 1889, à Paris encore une fois. La même année que la construction de la Tour Eiffel, l'Expo de 89 et que le centenaire de la Révolution. On cherche à concrétiser l'idéal républicain du progrès technique et social qui est, comme je soulignais avec Angenot, justement en perte de vitesse. On voit ici que les monstres de verre et d'acier sont souvent accompagnés de grandes horloges qui rappellent la présence de ce temps officiel contrôlé. L'horloge est le symbole de la mécanisation du temps, de sa régularité et de son emprise par la science et la technique. Regarder une horloge, c'est être aspiré vers une normalisation du temps. La maîtrise du temps, même titre que la maîtrise du corps, sont des grandes préoccupations de l'époque. Je note au passage pour l'anecdote qu'un énorme globe terrestre trônait au centre de l'Expo de 1900, 11 ans plus tard. Comme pour le temps, il s'agissait de réifier l'espace et de souligner sa maîtrise. Le problème, c'est qu'en 1905, Einstein publie ses travaux sur la relativité restreinte, parmi d'autres, et redéfinit ce qu'on pensait savoir du temps. Là où on croyait pouvoir le maîtriser, la relativité stipule finalement que le temps est un cadre dont l'écoulement est relatif selon la vitesse des observateurs et leur position les uns par rapport aux autres. Je n'entrerai pas plus dans les détails. La relativité introduit surtout la subjectivité en physique. Donc, dans Mort à crédit, on remarque justement que les personnages ont tous leur temps propre. Se déplace par rapport à un temps officiel, social, qui serait plus de l'ordre du collectif. C'est un temps qui se déplace vers l'avant, qui est accéléré par les nouvelles avancées techniques, et ça n'a pas arrêté depuis. La relativité einsteinienne se traduit dans l'imaginaire par une désynchronisation entre le temps des individus et le temps officiel. Appliqué à la théorie littéraire, ça amène à des concepts comme le chronotope de Bakhtin. Je vous invite à aller consulter là-dessus, justement, si ça vous intéresse, dans « Théorie et esthétique du roman ». Mais attention, on ne prétend pas ici énoncer des vérités physiques et prouver le tout en plaquant des formules mathématiques. La subjectivité du temps en relativité appliquée à la littérature, hein, c'est surtout un cadre heuristique, c'est des outils d'expérience de pensée qu'on se propose et qu'on se donne. Dans Mort à crédit, le temps social se morcelle et se rompt. Puisque le corps est un espace symbolique et une frontière justement entre l'individu et le monde, on l'a dit, c'est sur cette surface que se joue la tension entre le temps subjectif et le temps officiel, le temps du progrès. Le père et la mère de Ferdinand essaient de rattraper le temps en vain. Les maladies chroniques qu'il développe, étymologiquement, hein, maladies du temps, maladies temporelles, déforment les temporalités des personnes qui en sont atteintes. Plus les symptômes se font sentir, plus ils sont décalés pour finalement être totalement marginalisés. Ils deviennent retardés à la fois au sens temporel que médical. Désolé du jeu de mots. Donc, pour ce qui est de la mère. Dès le début de l'histoire d'enfance, la mère est présentée comme une handicapée. Elle boite, sa jambe faible est une branche, une brindille. Sauf que son travail l'oblige à marcher constamment. En plus de maintenir une boutique d'antiquités, elle confectionne des dentelles qu'elle tente de vendre aux quatre coins de Paris. Ses occupations sont directement liées au récent développement de la ville de Paris. La famille habite dans un passage couvert, rue abritée par un plafond de fer et de verre. Comme l'explique Benjamin, encore une fois, dans Paris, capitale du 19e siècle, l'idée derrière les passages, c'était de promouvoir les constructions de fer et de verre typiques de l'époque, mais aussi le commerce des tissus d'antiquité. Donc, c'était une association entre l'art et la science qui devait se rejoindre dans une apothéose du siècle. Sauf qu'on se rend compte assez vite dans Mort à crédit que cet idéal n'est jamais atteint. Ferdinand, dans la diégèse de 1935, donc quand il est adulte et avant de se rappeler son enfance, s'en rappelle avec amertume, je cite, L'antique. Ça m'écœure encore. C'est de ça pourtant qu'on bouffait. C'est triste, les raclures du temps. C'est infect, c'est moche, fin de la citation. Donc, on peut aussi se rendre compte du caractère très temporel, très corporel, pardon, du temps dans la citation. Donc, ça m'écœure, on bouffe, les raclures du temps. C'est infect, c'est moche. Ces deux marchés, antiquité et la vente de dentelles, sont en perte de vitesse, effectivement, vers 1900. Les nouveaux moyens de production en série détruisent petit à petit les commerces artisans. La mode change plus rapidement que la vitesse à laquelle Clémence peut produire ses dentelles, un art qui est très lent. Déjà par son travail, elle est marginalisée. Je cite, Son commerce devenait impossible, les modes n'arrêtaient pas de changer. Ensuite, plus qu'il y a des engouements dépravés pour les saloperies mécaniques, les broderies qui s'effilochent, qui font des pelles au lavage. Ma mère, il avait bien fallu qu'elle suive cette infection. Ça lui foutait la colique. Et plus loin à la même page, C'est une vraie déchéance pour qui a connu l'authentique. Fin des citations. Le développement des nouveaux moyens de production est une infection qui fout la colique, donc qui se lit sur le corps. Cet écart par rapport à justement aux nouvelles modes empire l'état de sa jambe qui était déjà faible, on l'a dit. À la page 161, la jambe instaure un nouveau rapport au temps pour Clémence. Je cite Ma mère clopinait à la traîne, tagadac, tagadac. Ce tagadac, justement, reproduit le son de ses pas. La sonorité instaure une rythmique qui est différente du temps officiel. Elle est à la traîne. C'est le corps meurtri qui dicte la pulsation. La jambe maladive réorganise le quotidien de la mère. Au fil des pages, son état se détériore rapidement. Je cite. Maman, à force d'escalade, elle en avait les jambes tordues. Ça lui faisait si drôle qu'elle ne pouvait plus s'arrêter. Elle faisait de terribles grimaces tout autour de notre table. Ça lui tiraillait les cuisses. C'est les crampes qui la torturaient. Et ensuite, sa cuisse avec son mollet à force de souffrir, ils étaient raides et soudés, ça lui faisait plus qu'un seul os avec l'articulation. On aurait dit un bâton, avec le long comme des bourrelets. C'était plus du tout des muscles. Ça lui faisait un mal atroce, une crampe infernale. Je la voyais à sa jambe, c'était la pire calamité. C'était pire qu'une grave maladie, qu'une typhoïde, qu'une érysipèle, qui est une maladie de la peau. Fin des citations. L'ultime affliction survient finalement à la page 312, je cite... Seulement un joli matin, sa jambe n'a plus remué du tout. C'était fini l'extravagance, les dures randonnées. Même l'autre genou était en feu. Il a gonflé aussi du double. Fin de la citation. La mère est finalement victime d'un abcès, ce qui l'immobilise totalement et la fige dans sa propre temporalité. Donc son décalage devient permanent. L'écart entre la jambe, entre le temps de la jambe malade et le temps du progrès montre justement les limites du corps, mais aussi les limites du progrès. Celui-ci a oublié les gens, il les a fragilisés. C'est cette tentative et l'incapacité de la mère à rejoindre le temps social qui finalement la rend malade. Si elle avait pu se définir selon sa propre temporalité, en suivant Einstein par exemple, l'état de sa jambe aurait peut-être jamais empiré. Le cas du père de Ferdinand, Auguste, est encore pire. Il travaille dans un bureau, la coccinelle incendie. Il est chargé de réécrire le courrier, entre autres choses. Il est connu pour sa belle calligraphie et se considère comme un artiste. Cependant, avec l'arrivée des machines à écrire, son talent devient superflu. Surtout, le ralentit considérablement dans cette tâche. Dès les premières pages de la Diégèse d'enfance, il est présenté comme étant obsédé par le temps. Je cite. Pour pas perdre de vue sa montre, il l'accrochait dans la cuisine au-dessus des nouilles. Fin de la citation. On voit vraiment cette obsession se dérouler devant nous au fil des pages. Je cite. Papa aussi portait une montre, mais en or, lui, un chronomètre. Il a compté dessus toutes les secondes jusqu'à la fin. La grande aiguille, ça le fascinait, celle qui court vite. Il bougeait plus à la regarder pendant des heures. Fin de la citation. Ça l'obsède tellement qu'il en oublie d'avancer. Paradoxalement, sur le temps social, le ralentit et le décale. Plus le récit avance, l'obsession du père se transforme en angoisse viscérale. Il veut appartenir au présent à tout prix, mais il en est incapable. C'est un nostalgique, c'est un artiste, un grand sensible. À un moment, lorsqu'il engueule Ferdinand, il engueule tout le temps son fils d'ailleurs, il lui jette l'anathème, en guillemets, et déclame à l'antique, se prenant pour un ancien dans une joute de rhétorique. Donc il devient vraiment peu à peu un anachronisme vivant. Ferdinand passe 8 mois en Angleterre. Lorsqu'il revient au bercail, il découvre ses parents totalement transformés. Son père est amaigri, fantomatique, je cite. De tronche, il était livide. Il avait perdu tout le dessus des tifs, donc les cheveux pour les personnes qui connaissent pas l'argot. Sous sa casquette, la marine, il disparaissait. Ses yeux étaient presque sans couleur à présent. Il se détériorait. Fin de la citation. En fait, s'il s'est détérioré aussi rapidement, c'est qu'il a dû prêter sa montre sur gage, faute d'argent. Il n'a plus accès au temps. Le déphasage temporel s'accélère donc. Comme pour sa femme, son corps est régi par une nouvelle temporalité, je cite. Son cœur battait la breloque. Il avait même des contretemps. Fin de la citation. Ou plutôt, le corps meurtri impose une nouvelle temporalité à Auguste. Bref, il ne sait plus à quel temps se référer. Il tente d'apprendre à utiliser la machine à écrire pour appartenir à son temps. Mais le cliquetis des touches est en passe de le rendre complètement fou. Je cite. On l'entendait au troisième comme il tapait sur sa machine. C'était un engin énorme, un clavier comme une usine. Quand il avait tapé longtemps, ça lui tintait dans les oreilles le cliquetis des lettres, encore une partie de la nuit. Fin de la citation. Donc, le clavier comme une usine organise un nouveau présent pour le père. Tout comme le tagadac-tagadac de la jambe de Clémence, le bruit des touches renforce l'effet de déphasage temporel en le rendant corporel, tangible. C'est drôle, j'entendais le clavier en même temps. Au même moment où la mère développe son, au même moment où la mère développe son abcès sur le genou et qu'elle ne peut plus bouger, le père développe de graves problèmes de peau. Je cite. Mon père, il tournait comme un tigre devant sa machine. Dans mon plumard à côté, il n'y avait plus moyen que je dorme tellement qu'il jurait sur le clavier. Il lui est sorti au début du mois de septembre toute une quantité de furoncles, d'abord sous les bras, et puis ensuite derrière le cou, alors un véritable énorme, qui est devenu tout de suite un anthrax. Fin de la citation. Ne pouvant plus se référer à sa montre, donc au temps officiel, Auguste... C'est bon, j'ai une résumé d'une page. Merci. Et Auguste se voit confronté aux limites de sa personne, il est laissé à lui-même. Son incapacité à être de son temps fait de lui un anachronisme humain, comme sa femme. Avant de terminer, j'aimerais avancer quelques hypothèses justement concernant la place de la maladie dans le roman. Comme le propose Georges Canguilhem dans « Le normal et le pathologique », la maladie redéfinit les normes de la victime. L'état pathologique change le quotidien de manière drastique et tout s'organise autour de la maladie. Par conséquent, on pourrait dire que la maladie chronique, c'est une réaffirmation du soi et de la subjectivité. Le corps, il n'est pas maîtrisable là où les discours médicaux du 19e siècle l'entendaient. Précisément, justement, parce que la maladie redéfinit constamment notre statut d'être humain. La maladie est constitutive de l'identité. Chez Céline, justement, nous sommes par définition des êtres malades, car pris dans le temps. Tout le monde est malade. Nous sommes tous malades de la naissance, et la vie constitue la véritable maladie chronique. La seule vérité, c'est la mort, répète incessamment Céline. Poser un regard nouveau sur la mort et la maladie nous permettrait peut-être de redéfinir les rôles de la vie et de la santé, à contrario. La langue du corps meurtri qu'il déploie est avant tout un ode à la vie et à sa fragilité. Merci.